Donc on est page Mishnah Gimel, Perek Rav Gimel, Mishnah Gimel, page 94. Donc là, on va parler toujours, on va continuer à parler du même sujet qu'on a parlé la semaine dernière, du concept des choses que normalement ils sont permis par la Torah, mais ils ont été interdits par les Chachami parce que c'est pas shabbatique. Donc, on commence tout de suite. Lo iskor Adam poalim be shabbat. Un homme n'a pas le droit de louer poalim. Donc il n'a pas le droit de louer les services de... Ah non, ça on a déjà fait ça. On a déjà fait ça la semaine dernière. Pardon. Mishnah Dalet, on va commencer. On a déjà fait ça la semaine dernière. Mishnah Dalet. Donc, Marchirim à la Troum Beshabbat. Vous vous rappelez, on avait fini dans la Mishnah Gimel. On avait expliqué, on avait dit que si les Chachamim m'ont interdit de louer les services des employés pendant Shabbat, non seulement j'ai pas le droit de louer des employés pendant Shabbat, mais j'ai pas le droit non plus de marcher jusqu'au Troum, jusqu'à la limite de la ville, d'accord? Donc un kilomètre après la limite de la ville, pour me dire que dès que Shabbat sera sorti, j'aurai déjà pris de l'avance. On n'a pas le droit. D'accord? Ça, c'est ce qu'on avait expliqué. Donc là, on est étudié Mishnah Dalet. Donc c'est page 95. Marchirim à la Troum, les Fakéar à l'Iskekala. On a le droit de littéralement Marchirim à la Troum, ça veut dire attendre la nuit à la Troum, à côté de la limite de la ville. Donc en d'autres termes, ça veut dire marcher. Par exemple, moi j'habite, d'accord, si j'habite à 5 km d'un endroit. Mais j'habite loin, moi, de la limite de la ville. Donc je me dis, j'ai envie de marcher jusqu'à la limite de la ville. Comme ça, je gagne au moins 3 km. Moi, dès que Shabbat y sort, j'aurai que 2 km à marcher. Alors, on a dit avant que j'ai pas le droit de le faire si c'est pour aller louer des employés. Très bien. Mais j'ai le droit de le faire si c'est les fakers à l'iskekala. Pour s'occuper. Non, pas n'importe quel mitzvot. Pas n'importe quel mitzvot. Les fakers à l'iskekala, pour s'occuper à l'iskekala pour une kala. C'est-à-dire pour s'occuper de tout ce qu'une kala a besoin pour l'amener à la choupa. Donc quand on dit la kala, c'est aussi le khatan. Hein. Ça veut dire s'occuper d'un mariage. Pour les besoins d'un mariage, on a le droit de commencer de se préparer Shabbat, par exemple, en marchant jusqu'à l'endroit limite qu'on ne peut pas marcher Shabbat. Va'al iske amet, ainsi que pour s'occuper de tous les besoins du mort, par exemple, les avilo aaron v'tachirim, pour amener au mort, il y a quelqu'un qui est niftar, qui est un vendredi ou qui est niftar Shabbat, et on veut aller chercher en dehors de la ville un cercueil ou bien tachirim, c'est-à-dire les vêtements avec lesquels on le couvre. Bon, le problème, comme je dis, c'est que c'est en dehors de la ville et que nous, dès que Shabbat y sort, il faut qu'on gagne du temps tout de suite, il faut aller chercher. Mais c'est loin, on va aller à pied, c'est très loin. Alors, j'ai envie de gagner du temps, je dis, bon, ben dans ce cas-là, je veux marcher jusqu'à la limite de la ville, d'accord? J'attends, et dès que Shabbat y sort, je continue. Si c'était pour louer des employés, ça aurait été interdit. Mais comme c'est pour ces deux cas précis, de Kala, pour préparer un mariage, ça veut dire, ou bien Iski Ahmed, pour quelqu'un qui est Niftar, d'accord? Là, dans ce cas-là, c'est permis. Bien que ce qu'on aurait préparé pour la Kala, ou le cercueil, ça aurait été interdit. Pendant Shabbat, j'ai le droit de commencer pendant Shabbat, si c'est pour ces deux choses-là. Parce que c'est une mitzvah d'une importance particulière.
Donc quand on dit louer un ouvrier, ou si même c'est pour son travail personnel,
oui.
On a dit que c'est interdit,
interdit
de
ouais.
S'avancer.
Ouais.
C'est pas ce que vous avez dit la semaine dernière. Vous avez dit que c'était que la personne, elle pouvait dire je vais en promenade, donc j'ai le droit de marcher, et dès que Shabbat va sortir...
Je dis qu'il a le droit d'aller en promenade, mais il n'a pas le droit d'aller pour ça.
Ah mais...
À se tromper soi-même, quoi.
Ouais. Lui va pour ça... Mais pour pouvoir y aller pour ça, il va dire je vais en balade.
Oui, mais il se trompe, alors. C'est l'hypocrite, ça.
Non, mais
ça, c'est...
C'est permis.
Pour deux choses.
Nous, on a parlé du travail, pas de la balade.
Hier, la dernière fois, vous m'avez parlé d'un autre cas. Vous m'avez pas parlé d'un cas du trou. Vous m'avez parlé d'un cas de quelqu'un qui doit être à un endroit particulier à la sortie de Shabbat. Par exemple, il doit être au 19e, à la sortie de Shabbat. D'accord? Parce qu'il va jouer dans un orchestre. Ouais. Bon. Alors, est-ce qu'il a le droit de marcher jusqu'au 19e? Alors, je dis, ça dépend. Je dis que si lui il va aller au 19e mais que lui il dit tant qu'à faire je vais passer par les buts de Chaumont, donc il va profiter du bon air des buts de Chaumont, là dans ce cas-là, il a profité pendant Shabbat d'être passé par les buts de Chaumont, donc c'était une balade. Donc il y a eu une utilisation permise pendant Shabbat. Quel exemple je vous ai donné? Attendez, excusez-moi.
Bien sûr, on sait, c'est une ruse, on sait.
C'est pas une ruse, non, c'est pas une ruse. Quel exemple je vous ai donné? Je vous ai donné un exemple très simple. Vous vous reposez Shabbat après-midi?
Hein?
Vous arrivez de vous reposer Shabbat après-midi?
Ouais.
Est-ce que vous faites le lit quand vous vous levez? Le lit, vous vous levez.
C'est une bonne question.
Est-ce que vous faites le lit?
Non, normalement non.
Oui, je ne... Ça dépend.
Est-ce que vous faites? Est-ce que ça vous arrive de faire?
Si j'ai une raison pour le faire, je vais le faire.
Est-ce que vous savez que normalement on n'a pas le droit? Vous savez que normalement on n'a pas le droit?
On peut se reposer sur le fait que la maison...
Bah, attendez, oui, mais la maison, de toute façon, vous partez à la synagogue. Vous n'allez pas utiliser la maison.
Mais s'il y a quelqu'un et que...
Il n'y a personne qui va venir.
Hein?
Il n'y a personne qui va venir.
On ne sait pas.
C'est la même chose. S'il y a quelqu'un.
S'il y a quelqu'un,
pour nous,
donc la même chose.
Ouais.
Comme pour vous voulez bien vous sentir. Normalement, vous voulez bien vous sentir, vous voulez avoir la maison propre. Bien que, techniquement, vous allez vous en servir de ce lit que vous avez fait que le soir, quand en revenant à la synagogue. Vous repartez à la synagogue maintenant. Donc, vous êtes en train de préparer pour Shabbat, pendant Shabbat, pour après Shabbat. C'est quand même permis. Parce que même si les Rahamim ont interdit, mais ils ont fermé les yeux sur ce style de ruse. C'est pas une ruse, ça veut dire que je fais aussi pour ça. Je fais aussi pour ça. Je fais aussi pour avoir la maison propre, la même chose. Pour ça les Rahamim, parce que selon la Torah c'est permis.
Mais
quand la personne, si la personne sort de la ville, si la personne, c'est quoi alors? Si la personne sort de la ville, si la personne sort de la ville et que son but c'est que de sortir de la ville pour pouvoir être plus près de l'endroit où il va aller, là c'est à soi. Ok. Alors, Goy Shevi Khalilim Beshabbat. Un non-juif qui a amené Khalilim Beshabbat. Alors, maintenant, donc, on parle toujours de quelqu'un qui est Niftar. Et à l'époque, ils avaient l'habitude que quand c'était une Levaya, on faisait un son de flûte. Il y avait des flûtes, d'accord? Et on jouait de la flûte. Et on chantait des chants mélancoliques.
C'est les femmes qui chantaient. Hein.
Alors,
là, ça a changé. Hein. C'est marqué, là. Les pleureuses.
C'est pas écrit les femmes.
Là, il y a marqué.
Ah, je sais pas si c'est écrit. Moi, je sais pas
si c'est écrit. Robert Samuel.
Bon, parce qu'il dit Robert Samuel. Donc c'était une habitude qu'il y avait des gens qui venaient jouer à la flûte et on chantait des chansons tristes. Eh bien. Donc, Goy Shevi Khalilim Beshabbat. S'il y a un non-juif qui a amené Khalilim des flûtes Beshabbat pendant Shabbat. Donc, bien entendu, pourquoi il a amené des flûtes? Pour quelqu'un qui est Iftar. Alors, Lo Yispod Ben Israël. Un juif n'aura pas le droit de s'en servir après Shabbat. Et là seulement, donc il n'a pas le droit de s'en servir pour jouer à la flûte, donc pour la Levaya. Et la Imken, Baou Mimakom Karov. Seulement, s'ils sont venus d'un endroit qui est proche, ça veut dire si on sait que le non-juif les a amenés d'un endroit qui est dans la limite de la ville, là dans ce cas-là c'est permis. Mais si on sait qu'ils sont venus loin de la ville, il faut attendre. Qu'est-ce qu'il faut attendre? Alors c'est une notion qui revient très souvent dans la halakha. Il faut attendre d'irdé chez Yassou. D'irdé chez Yassou, ça veut dire le temps que ça aurait pris pour le faire. C'est-à-dire, par exemple, combien de temps ça prend pour marcher depuis l'endroit où le goy est venu jusqu'ici? C'est-à-dire que ça prend 2 heures. Il est venu il a marché 10 km. D'accord? Il était en dehors de la ville. Il a marché 10 km, il est venu, ça lui a pris 2 heures. Dans ce cas-là, après la sortie de Shabbat, tu attends 2 heures.
Pour rattraper.
Tu vas pour rattraper. Pourquoi? Pourquoi les Khamim ont fait ça? Khamim ont fait ça parce que, comme ça, la personne, elle sera jamais tentée pendant Shabbat de demander un goy, parce qu'il sait que de toutes les façons, il devra attendre à la sortie de Shabbat. D'accord? Donc ça, c'est le concept de birdé chez Yassou. C'est pour ça qu'on nous dit ici que la flûte que le goy a amenée pendant Shabbat, si c'était dans la limite de la ville, là dans ce cas-là, bon, dans la limite de la ville, là dans ce cas-là, ça veut dire que c'était pas interdit par... On va dire que ça veut dire que c'était proche, de toutes les façons, moi j'aurais pu le faire juste après Shabbat. Donc dans ce cas-là, Khamim sur ça, ils ont dit c'est permis. Mais si c'est pas dans la limite de la ville, là vraiment c'est un boulot que moi j'aurais pas pu faire, même avec Kérou ou Saint-Rou, je peux pas faire, il faut sortir de la ville. Dans ce cas-là, il faut attendre minimum birdé chez Yassou, ça veut dire le temps que ça aurait pris pour le faire.
C'est quoi la différence hein? Tu vas pas comprendre ces notions-là.
La différence entre quoi et quoi?
Dans la ville et hors de la ville.
Non.
Dans la ville, on a le droit de porter.
La différence qu'il y a en dehors de la ville et pas en dehors de la ville, c'est que quand c'est dans la ville, le juif aurait pu le faire après Shabbat. Alors, ça veut dire que le juif, il aurait pu le faire juste après Shabbat, lui, il serait parti. Le fait que le goy l'a fait pendant Shabbat, bon, il a gagné un peu de temps, mais c'est pas, le goy lui a pas tellement avancé, le goy l'a pas tellement avancé. Mais quand c'est en dehors de la ville, que là c'est loin, hein, là dans ce cas-là, le goy a vraiment fait gagner du temps au juif. Et alors, les Khamim ont peur de quelque chose, de quoi ils ont peur? Ils ont peur que le juif va demander explicitement au goy.
Tout le temps de leur...
Il va dire, vas-y, est-ce que tu peux pas aller me chercher ça? C'est pour ça que les Khamim ont dit, dans ce cas-là, pour éviter ce genre de problème, on fait une règle. Que celui qui demande à un goy, exprès ou pas exprès, ou que le goy amène, quoi qu'il arrive, il faut attendre birdé chez Yassou le temps que le goy, d'accord, le temps que le goy avait pour le faire. Et ça c'est un cas qui peut arriver.
Ouais.
Imaginez-vous que vous donnez votre voiture au garagiste juste avant Shabbat.
Ouais.
D'accord? Tenez votre voiture au garagiste goy juste avant Shabbat.
C'est sûr qu'il va le faire pendant Shabbat.
C'est sûr qu'il va le faire pendant Shabbat. Impossible qu'il le fait avant Shabbat. Impossible. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Il faut attendre pour prendre la voiture, il faut attendre Birdé chez Yassou. Le temps que le goy aurait pris pour faire cette réparation. Donc si par exemple ça prend 2 heures pour faire la réparation, il faut attendre 2 heures après Shabbat. Oui, c'est important à savoir ça. Un goy qui a fait un travail pour nous pendant Shabbat et qui était obligé de le faire pendant Shabbat. Impossible qu'il fasse avant Shabbat.
Même
si moi je lui donne, vendredi après-midi et qu'il avait le temps de le faire, mais qu'il avait du boulot, c'est pas mon problème. Il avait le temps de le faire. Ça a l'air.
Parce que tu arrives à un autre cours que tu avais fait, que nous on a l'obligation, excuse-moi de te couper la parole, de ne pas lui donner si on sait qu'il va le faire Shabbat.
C'est pas un ouvrier, c'est un artisan.
Il a fait un cours derrière.
Il a son compte.
Non, moi je.
Tu avais dit de l'histoire des courriers. Tu avais dit les courriers et tout ça.
Le cas du pressing, dans le cas du pressing, moi j'ai le droit de donner au goy. C'est le fameux. C'est un cas qui est déjà surprenant pour le cas du pressing. J'ai le droit d'amener un vêtement à un goy vendredi après-midi.
Oui.
D'accord? Et je peux le récupérer directement Shabbat à la sortie. À condition que vendredi après-midi, il avait le temps techniquement de le faire.
D'accord.
Même si son blanchisseur n'était pas là, ou j'en sais rien.
3 minutes avant Shabbat.
C'est pas mon affaire.
D'accord.
Vous savez, encore une fois, ça c'est des choses que comme c'est les Chachamim qu'on interdit, donc d'un autre côté, ils ont fermé les yeux, ils ont été plus souples. Parce que si ça avait été une interdiction de la Torah, Mais là, comme c'est les Chachamim qu'on interdit, pourquoi ils ont fait toutes ces interdictions-là, de ne pas faire travailler un goy Shabbat, etc. C'est pour pas que. Le problème, comme on a expliqué la semaine dernière, c'est qu'il ne voulait pas perdre l'ambiance du Shabbat. Que si du coup, moi je travaille pas, mais j'envoie un goy travailler, donc c'est la même chose, c'est fini, on perd l'ambiance du Shabbat. Donc puisque c'est les Chachamim qui ont fait cette interdiction, ils ont été assez souples. Par exemple, dans ce que je vous ai dit, que si le goy avait eu le temps de le faire avant Shabbat, même si je sais qu'il ne va pas le faire avant Shabbat, mais il avait le temps, c'est pas mon affaire. Là, dans ce cas-là, il n'avait pas le temps de le faire avant Shabbat. Il l'a fait pendant Shabbat, la flûte. C'est pour ça que je dois attendre après.
Moi, si on sait pertinemment que dimanche il est fermé.
Alors, ouais.
Et lundi matin à la première heure, on vient chercher sa voiture.
Pas de problème, il aurait pu le faire dimanche.
Même si on sait que c'est un gros.
Même si la nuit il aurait pu le faire.
Un gros garage Renault avec 500 personnes.
Peu importe.
Non. D'accord.
Il aurait pu le faire.
Question de timing.
Ouais, je vois très mal le directeur dire bon, on va ouvrir exceptionnellement dimanche pour la voiture de monsieur Bispu.
La nuit même.
Ouais.
Asulo Aaron. Si maintenant, donc vous avez toujours quelqu'un qui est niftar, du préserve pendant Shabbat, et les non-juifs ont préparé, on leur a rien demandé, mais bon, c'est leur boulot, ils ont préparé Aaron un cercueil pendant Shabbat. Vechafroulo kever, ou bien, s'ils ont déjà un, chafroulo kever, ça veut dire qu'ils ont déjà creusé la tombe. Ils ont déjà tout enlevé la terre, etc. Bon. Ikaverbo Israël, là dans ce cas-là, on a le droit d'enterrer dans cette tombe-là un juif. Ça veut dire quoi? Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que la condition est ici.
Grave.
Que les goyim ont préparé le cercueil.
Shanatova.
Mais eux les goyim c'est des gens qui travaillent dans les cercueils. Ils n'ont pas préparé le cercueil pour ce juif. C'est une boîte de pompes funèbres. Ils ont préparé un cercueil pendant Shabbat. Vous venez les voir, c'est une histoire, on dit voilà, j'ai besoin d'un cercueil. Ils disent oui, on en a un, on vient de le faire tout frais aujourd'hui. D'accord. On vient de le faire aujourd'hui. Est-ce que j'ai le droit de m'en servir ou pas? Là, on te dit oui, tu peux t'en servir. Pourquoi? Puisque le gars, il l'a pas fait pour toi.
Il l'a pas fait pour toi.
Lui, il a fait son boulot. Même s'il l'a fait pendant Shabbat.
D'accord.
Mais le gars, il l'a pas fait pour toi. Il l'a fait pour son boulot. Toi, maintenant, t'es venu après Shabbat, tu l'as demandé, il l'a fait. Mais, Ve'im, Juil Israël, mais si le gars, il l'a fait pour le juif, c'est-à-dire, il a entendu qu'il y a eu un mort chez les juifs et il sait que c'est la seule boîte de pont funèbre. Donc, il a préparé un cercueil. Donc, il l'a fait explicitement pour le juif.
Oui, mais il l'a pas fait pour ce mort.
N'importe, s'il a fait pour un Israël, pour un juif, d'accord? Bien sûr, et pour qui alors il a fait? Il a entendu, c'est la seule boîte.
Il sait que la ville est entière.
Le Ikaverbo Olamit.
On fait pour l'avance, il y a un mort tout le temps.
S'il l'a fait pour un juif, le Ikaverbo Olamit, on n'a pas le droit d'enterrer, d'accord? Le Ikaverbo Olamit, on n'a pas le droit d'enterrer ce juif-là, d'accord? Olamit, à vie. D'accord?
Ça veut dire quoi?
C'est-à-dire que ce juif-là, on n'aura pas le droit de l'enterrer à vie.
Laissez-moi.
Attends.
On n'aura pas le droit de l'enterrer à vie. Deux secondes. On n'aura pas le droit de l'enterrer à vie dans ce cercueil. Pourquoi? Parce que on risque d'avoir un problème de kavod pour ce mort-là. Pourquoi? Les gens, quand ils vont passer dans son cercueil, vont dire « Ah, ça c'est le cercueil qui a été fait par un goy pendant Shabbat. » Ou bien « Ça c'est la tombe
qui a été écrit dessus. »
C'est pour ça que les Chachamim m'ont interdit. Pour le kavod du mort, ils ont interdit, ils ont dit que dans ce cas-là, les petites villes, les gens, comme ça c'est soucié. D'accord? C'est pour ça que les Chachamim m'ont interdit, ils ont dit ce mort-là, on ne peut pas l'enterrer dans ce cercueil-là, ou dans on ne peut plus l'enterrer du tout au Lamite, à vie. Mais un autre juif, s'il y a un autre juif qui meurt, c'est-à-dire pas le juif pour lequel on a fait le cercueil, un autre juif, là on a le droit de l'enterrer, mais il faut attendre, birder chez Yassou, le temps que ça prend de faire le cercueil.
C'est ce que je disais. Si c'est un goy qui travaille dans une ville juive, il sait très bien que d'après les statistiques, il y a un mort tous les jours, par exemple. Donc pourquoi il va attendre que le mort il soit mort? Il se dit de toute façon, moi je fais.
Dans ce cas-là, il faut attendre birder chez Yassou. Il faut attendre le temps que ça prend pour faire la chose.
Le temps de la construction.
Puisqu'il n'y a pas de problème de cavote du mort.
C'est la même chose pour la tombe qui est creusée.
Bien sûr.
Ouais. Tu l'as ou tu l'as pas là?
Oui.
T'en as pas parlé à ton creuser.
C'est la même chose. D'accord. Alors, Osim Kol Sor Kehamet. On continue toujours pour la Mishnahé. On continue toujours pour les besoins du mort pendant Shabbat. Pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut pas faire pour un mort pendant Shabbat. Donc Osim, pendant Shabbat, on peut faire Kol Sor Kehamet. Tous les besoins.
On va le soigner, ouais.
Tous les besoins du mort. Alors ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on peut avoir besoin pour un mort? Sachin. On peut oindre un mort avec de l'huile. Pour éviter que le corps prenne des mauvaises odeurs. On met dirin auto. On a le droit de rincer le corps d'une personne qui est décédée pendant Shabbat, rincer avec de l'eau. Ou bilvad, chez l'eau, yazizubu ever. À condition.
Soi-même, on n'a pas le droit
à condition,
de se joindre.
Oui, alors pour le mort, c'est permis, mais à condition. Ou bilvad, chez l'eau, yazizubu ever. À condition qu'on ne bouge pas un seul membre du mort. Alors ça, il faut savoir. Il faut savoir qu'un mort pendant Shabbat, c'est moukté. Un mort pendant Shabbat, c'est moukté. Toutes les lois de moukté s'appliquent sur le mort pendant Shabbat. Donc, si on veut loindre, d'accord, on veut loindre, mais d'une manière qu'on ne va pas bouger un os. Bouger un os, ça veut dire bouger un petit peu, ça va, mais bouger un os, il ne faut pas que les os bougent. Dès que si un os bouge, là, c'est un problème chez le mort. D'accord. On peut le rincer aussi, on peut verser de l'eau sur lui. Mais il ne faut pas bouger un os, parce que sur le mort, s'applique toutes les halakhot du moukti. Shomtin et akar mitartav. On a le droit, donc on n'a pas le droit de bouger, on n'a pas le droit de bouger un os, de bouger la tête, etc. Mais on a le droit d'enlever le coussin qui assure, par exemple, si le niftar dans son lit, il avait un coussin en dessous de sa tête. D'accord. On a le droit d'enlever le coussin qui est en dessous de sa tête. Donc moi, je touche pas le mort. J'enlève le coussin et automatiquement la tête du mort va se poser sur le lit. C'est permis. D'accord. Ça, c'est permis pendant Shabbat. Ou matilim oto alachol bishvil sheyamtin. Donc, on a le droit de... Pourquoi on fait ça? Donc, on prend le... Shomtim et Takar mitartav. D'accord. On enlève le coussin. Et où on pose le coussin? On le pose sur du sable. Pourquoi on le pose sur du sable? Bishvil sheyamtin, parce que, comme explique la Gemara, explique, elle dit que le corps du mort, il peut pourrir très rapidement. Et plus il est entouré avec des couvertures et des coussins, etc., et plus l'effet de
décomposition
s'accélère. C'est pour ça que les Rachamim ont permis pendant Shabbat d'enlever tout ce qu'il y a autour du mort, même si on risque des fois de bouger un os à cause de ça. Ils ont permis, pour le kavod du mort. On a le droit d'enlever toutes les couvertures, tout ce qu'il y a, tout ce qu'on peut. Même le drap. On essaye au minimum de toucher le mort au minimum, puisque normalement on n'a pas le droit. Mais les Rachamim ont permis pour le kavod du mort. Pour le kavod du mort, ils ont permis. Pourquoi? Parce que sinon, pour essayer de freiner au maximum le processus de la décomposition.
Ils ne le mettaient pas au frais
Il y avait des frigidaires à l'époque.
Non, mais il y avait des blocs de glace, et il devait y avoir des systèmes pour le maintenir juste le temps du Shabbat.
Oui. On pouvait même le mettre dans une fosse, et après on s'est dit, si on l'enterrait...
Il devait y avoir des méthodes.
Peut-être, je sais pas s'il y avait des blocs de glace, c'est possible.
On le fait une pâte.
Monsieur Daniel, comment vous voulez conserver un bloc de glace à l'époque?
Comment? Il y a la montagne.
Oui, d'accord.
On peut la terre.
Combien de temps tu vas conserver un bloc de glace?
Ça reste pendant des mois et des mois.
Ah oui, un bloc de glace?
Mais pas un petit bloc comme ça! C'était une carrière, c'était des mètres cubes et des mètres cubes. Néron, il nous raconte qu'il faisait les sorbets comme ça, les glaces. Ils allaient là au haut du volcan, là où.
Donc ils avaient le frigidaire.
Ils descendaient des blocs, bien sûr.
La terre.
Il y avait tout.
Moi, je savais pas ça.
Et quand
un bloc de glace, mais ça met des mois et des mois à fondre.
Les rois de France, ils avaient de la glace servie, du sorbet, comme il a dit, c'était des morceaux de glace qu'on gardait.
Ils en faisaient quoi, par exemple?
Sous la terre.
Non, mais ils en faisaient quoi, leur utilisation première?
Des sorbets.
Ça refroidissait les cuisines froides.
Des plats frigo, je sais pas, parce que chaque fois, s'ils déterrent 10 mètres à chaque fois pour prendre un morceau.
Non, c'est un bloc.
Non.
Donc, de glace, ça dure très très longtemps.
Continue. Donc, Shomtim et Takam et Tartam, Otim et Otalakosh, Shiamtim. Ok. Koshrin et Talehi. Continue toujours pour une personne qui est décédée pendant Shabbat. Donc on a le droit de kosherine, on a le droit d'attacher et à l'échi. L'échi, ça veut dire la mâchoire. Pourquoi? Parce qu'on sait que le mort toujours a tendance à ouvrir sa bouche, hein, c'est comme ça, avec la déformation du corps. Donc, lo chez Yahalé et là chez le Yosif. D'accord? Puisque pendant Shabbat, on n'a pas le droit de bouger un os du mort, donc on n'a pas le droit de... Si la personne qui est décédée a déjà la bouche qui est un petit peu ouverte, j'ai pas le droit de fermer sa bouche. Ça, j'ai pas le droit. Et par contre, j'ai le droit de bloquer, avec un tissu, en général, on bloque, de manière à ce que la bouche ne s'ouvre pas plus que ce qu'elle est déjà ouverte. D'accord? Parce que sinon, encore une fois, c'est très dur, parce que pendant Shabbat, le mort est moukté. Il est moukté, le mort. C'est des lois très dures sur le mort.
On peut le toucher, mais on peut pas le manipuler.
Ouais. Et là, chez le Yosif. Vechen Korach et Nishbera. Bon, on va changer un peu de sujet, on parle pas du mort maintenant. Vechen Korach et Nishbera. Pareil, si vous avez une poutre qui s'est cassée. Il y a une poutre, d'accord, dans une maison, il y a une poutre qui s'est cassée. C'est-à-dire qu'elle s'est cassée, c'est-à-dire qu'elle risque de tomber. Alors, Somrin Ota Besafsal. La poutre, elle est mouktée pendant Shabbat. Jusqu'à l'entrée de Shabbat, la poutre était mouktée, donc elle reste mouktée tout Shabbat.
On parle d'une poutre de la maison qui va se casser la figure.
Une poutre de la maison, mais bon, il n'y a pas de sakana. Ça peut être aussi, par exemple, un pied d'une table, ou tout ce que vous voulez, d'accord. Très bien. Donc une poutre, littéralement, une poutre, c'est une poutre qui faisait tenir une maison. La poutre est mouctée pendant Shabbat, on n'a pas le droit de la déplacer.
S'il y a danger,
alors moi, qu'est-ce que je veux faire? S'il y a danger, on sort de la maison. Ah oui? On demande à un goy.
Pour éviter que... Non, on n'a pas le droit d'intervenir. On
demande à un goy. Vous, non, vous n'avez pas le droit. Alors là, c'est ce que vous pouvez faire, voilà ce que vous pouvez faire. Vous pouvez mettre un banc pour bloquer la chute de la poutre. Le banc n'est pas moucté. D'accord? La table, par exemple, ici.
Tu prends ton banc, tu le mets en dessous comme ça.
Quand on prend, vous bloquez la poutre avec des, vous savez, quand vous prenez par exemple des tables lourdes ou un banc, vous le mettez autour de la poutre et la poutre est bloquée. La poutre tient par la table et les chaises, enfin la table et le banc qu'on a mis. C'est littéralement, à l'époque c'était un banc. Les bancs étaient très lourds à l'époque. Donc Somri Notab et Safsal, on a le droit de la maintenir avec un banc. Oba Aruchot Amita. Quand Aruchot Amita, c'est quoi? Aruchot Amita, c'était dans le lit à l'époque. Alors à l'époque, les lattes des lits, ils n'étaient pas sur la largeur, mais ils étaient sur la longueur. Donc dans les lits, il y avait des longues lattes. D'accord ? Et c'était des lattes très très lourdes. Pareil. Donc, on peut utiliser ça pour freiner la chute de la poutre. C'est permis pendant Shabbat. Pourquoi ? Parce que tout ça, c'est pas moukté. C'est que la poutre qui est moukté. Donc le chidouche qu'on nous apprend dans la Mishnah,
il va les démonter à l'heure du lit.
Ouais, c'est pas démonté, c'était des morceaux de bois. D'accord, ça veut dire que vous avez un matelas.
Il est retiré.
Voilà, c'est retiré. C'est
étayé de façon à ce que la poutre elle casse pas complètement et que la maison
est. Puisque la poutre est mouctée, c'est vrai. Mais moi je touche pas la poutre. Moi je mets des choses autour de la poutre pour bloquer. Très bien. Alors l'eau chez Taalé et là chez l'autosif. Alors bien entendu, hein, quand on dit bloquer la chute de la poutre, ça veut dire j'ai pas le droit de redresser la poutre et de la mettre droite et de commencer à faire des travaux maintenant. Non. Je dois juste le bloquer pour freiner la chute pour que maintenant ça s'arrête comme c'est. Comme ce que j'ai dit tout à l'heure pour le mort. Pour le. Oui, la mâchoire du mort. Non, on retourne à la chôte du mort.
C'est pas assimilé à un travail fait pendant Shabbat.
Non.
Parce qu'on construit un.
Non, vous construisez pas.
T'empêches la destruction de continuer.
Quand on monte des planches, c'est...
Vous savez quel exemple on a déjà donné ?
Faire un échafaudage pour éviter que ça tombe.
Tandis, tu prends un banc, tu le mets debout et tu mets en dessous de façon à ce que la maison ne s'écroule pas. On t'a pas demandé de redresser la poutre, on t'a demandé d'empêcher qu'elle continue de se casser.
C'est pour ça qu'on a dit que redresser, c'est interdit. Parce qu'il ne faut pas oublier quelque chose. On ne parle pas de construction ici. Le seul problème qu'on a ici, c'est moukté. Je ne vais pas construire la poutre. La poutre pour la ranger, il faut venir avec des outils et la ranger. On n'arrange pas une poutre avec un banc. Le banc est là seulement pour freiner la chute. Pourquoi je ne touche pas la poutre directement? Parce que la poutre est mouctée. C'est le seul problème qui est ici. Il n'y a pas de problème de construction. Je ne peux rien construire ici. Qui va construire avec un banc? On ne construit pas avec un banc. Il faut arranger, il faut faire des outils. Mm-hmm. Le seul problème qui est ici, c'est que la poutre est mouctée. Alors qu'est-ce qu'on te dit? Quand la poutre est mouctée, même si toi tu n'as pas le droit de toucher la poutre, tu as le droit de mettre quelque chose autour de la poutre qui va faire le même effet que si tu avais touché la poutre. Tu as le droit. Pourquoi? Parce que toi, tu n'as pas touché la poutre. Encore une fois, tout ça, ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est des choses que les Chachamim, comme c'est eux qui ont mis les interdictions de Moukté, ils ont été souples dans ce genre de choses.
Même pour le mort, c'est eux, c'est les Chachamim.
Oui, bien sûr. Ouais.
Excuse-moi, là, tout à l'heure, quand tu as dit retirer l'oreiller,
oui.
Je crois avoir compris là que c'est pour faire glisser le mort Dieu préserve la terre et non pas l'oreiller uniquement.
Ça c'est Melechat Shlomo, c'est un commentaire qui dit comme ça, oui.
Hein?
Ça, c'est un autre commentaire
donc
qui dit comme vous
peut,
dites.
C'est possible.
Oui. Il y a un autre commentaire qui explique comme vous dites. Melechat Shlomo, il dit comme vous dites. Il dit qu'en vérité, ce qu'on faisait, c'est qu'on prend le mort avec un... Donc là, le problème, c'est que voilà. C'est, pourquoi j'ai traduit comme ça? Parce que littéralement, dans la Mishnah parle d'un quart. Un quart, c'est un coussin. Donc le coussin, c'est pour que la tête va tomber. Mm-hmm. Mais il y a d'autres commentaires qui expliquent qu'on ne parle pas d'un coussin, on parle du drap. Et que même si on n'a pas le droit d'attraper le mort, on a le droit de l'attraper avec le drap, mm-hmm. d'accord, de l'attraper avec le drap, de le poser sur le mort sur le sable, mm-hmm. d'accord, et après de tirer le drap. Pourquoi? Parce que, pareil, encore une fois, qu'est-ce qu'il y a de spécial dans le sable? Le sable freine la décomposition. Il y a deux explications.
On le déplace.
Oui. C'est permis, on l'a dit, comme c'est... Normalement, c'est interdit, mais comme c'est pour le cavote du mort, que le mort risque de... Ouais. Le mort risque de sentir mauvais, c'est permis. C'est les chachamim, c'est eux qui ont interdit, c'est eux qui ont permis. Bon. Ok. Donc, en me amtin... J'en suis... Voilà. En me amtin et amet be shabbat. On n'a pas le droit, pendant shabbat, de fermer les yeux d'une personne qui est décédée pendant shabbat, même, bien entendu, une fois que la personne... donc bien entendu, on parle que la personne est déjà niftar. Hein, la personne est déjà niftar. Parce que normalement, ce qu'on fait, c'est qu'on ferme les yeux de la personne juste avant qu'il meure.
Qu'il dise,
d'accord. Fait le schéma Israël. Après, on lui ferme les yeux. Et c'est là, à ce moment-là, pendant ces quelques instants, qu'il va partir.
Le pauvre chou.
D'accord. Oui. Non, c'est comme ça. On ferme les yeux. C'est par kavod. C'est lui-même. En général, c'est lui-même qui ferme les yeux. Qui ferme les yeux pour dire ça y est, j'ai fini.
Oui, mais on connaît la contraction post-mortelle.
Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que il y a un problème, c'est que des fois les yeux s'ouvrent pendant Shabbat.
Bien sûr.
Alors qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? En ne'amtin et tamet pendant Shabbat. Les yeux, c'est un os. Donc on n'a pas le droit de déplacer pendant Shabbat
les paupières.
Interdit. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de danger et il n'y a pas de cavote du mort. Il n'y a pas de problème de décomposition. Donc c'est interdit. Alors tout ce que je viens de vous dire ici, c'est permis par un goy. Hein. Mais un juif, il n'a pas le droit. Donc en ne'amtin et tamet de Shabbat. On n'a pas le droit donc de fermer les yeux d'une personne qui est décédée, du défunt pendant Shabbat. Velo bachol imietiat anefesh. Et ni non plus avec du sable. Alors pareil, c'est quoi le concept du sable? Le concept du sable, ça veut dire on met un petit peu de poids sur les yeux, comme ça automatiquement les yeux, donc je mets un peu de sable, un peu de terre, comme ça les yeux restent baissés. On n'a pas le droit pendant Shabbat. Ve'amehamet imietiat nefesh, arezé chauffeur d'amis. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit comme ça. On nous dit qu'une personne qui force un mort à fermer ses yeux. D'accord. Ça veut dire comme ça. C'est-à-dire que le mort, on lui dit, bon monsieur, maintenant, il faut fermer les yeux, maintenant, c'est fini. D'accord.
Oui, mais ça mort encore.
Voilà.
Mort,
alors qu'il n'est pas encore mort. Arrêté chauffeur d'amis. C'est un meurtrier. Pourquoi c'est un meurtrier? Parce que la Mishnah explique. Parce qu'on va accélérer sa mort. Pourquoi? Parce que peut-être que lui, il voudrait vivre encore un peu. Mais quand tu lui dis, monsieur, maintenant, ça, il faut fermer les yeux. Il dit, bon, bah, dans ce cas-là, si on ne veut plus de moi ici, je m'en vais. Il approche sa mort. Il faut savoir que dans la Torah, si on a accéléré la mort d'une personne, même d'une seconde, c'est comme si on l'a tué. C'est pour ça, vous avez vu le terme de la Mishnah, arezé chofer tamim. C'est qu'il a versé son sang. Dans la Torah, quand on accélère le processus de la mort de quelqu'un, même d'une seconde, c'est comme si on l'a tué.
Alors, qu'est-ce qu'on dit
pour ça? Qu'est-ce que je vous dis? Que, en général, c'est le mort lui-même qui ferme ses yeux. Le mort lui-même ferme ses yeux. Seulement, comme il a dit M. Bispute, le problème qu'on a, c'est qu'après, comment vous appelez ça, l'effet?
Post-mortem.
Mais post-mortem. D'accord, c'est que le problème.
Après.
Non, le problème
qui
se passe, c'est que des fois,
les
quelques instants après que la personne est morte, des fois, ce qui arrive, c'est que vous avez la bouche qui s'ouvre, vous avez les yeux qui s'ouvrent, etc.
Il y a même des gaz qui s'échappent, parce
etc.
Ça se met à fermenter et tout.
Alors là, dans ce cas-là, c'est un problème.
C'est rapide, hein.
Dans ce cas-là, c'est un problème. Si le mort a fermé lui-même ses yeux, dans ce cas-là, pas de problème. Voilà. Alors, on continue le chapitre 24, le dernier chapitre, dernière ligne droite, pour finir. Masechet Shabbat.
Voilà. Alors, celui-là, il est
intéressant. Alors, Michel, Chir, d'où vous savez?
Hein?
D'où vous savez qu'il est intéressant?
Je le connais. Souvent, il y a plein de questions là-dedans.
Ah. Ça arrive à tous, ce genre de
oui,
trucs.
Non, mais c'est très intéressant parce que l'âne est la bourse.
Sur moi, qu'est-ce que je vais faire avec? Juste à mes
clés. Tu ouvres ta bourse sur l'âne, tu le laisses tomber par.
Alors, Michel, Chir, l'eau va derrière. Donc, qu'est-ce qui se passe? Une personne prend la route. Quand? Il a pris la route, il a prévu qu'il devait arriver à la ville ou chez lui à la maison avant Shabbat. Embouteillage. Il y a son âne qui est mort au milieu.
D'accord. Galère.
D'accord, une galère. Ou bien son âne qui ne veut plus avancer.
Ça m'arrive une fois tous les 6 mois, j'ai une galère.
Bon. Non, mais attends.
Donc, Michel Shir Baderer. Celui que littéralement, ça veut dire le ciel s'est obscurci quand il était en chemin. Ça veut dire que Shabbat est rentré alors qu'il est encore en route. Il n'est pas encore arrivé à la maison. Qu'est-ce qu'il fait? Il avait de l'argent dans sa poche. Non, il ne veut pas perdre son argent, il a besoin de son argent. Il veut pas, qu'est-ce qu'il fait? L'argent, c'est moukté. On n'a pas le droit de déplacer l'argent.
En réalité, tout est moukté, tout ce qui est dans
tout
sa
est
poche.
Bon, là, c'est là, on a dit de l'argent, parce que là, c'est vraiment quelque chose de moukté.
Parce que là, il n'y a pas d'héros.
Parce que, il n'y a pas
de... Là, il y a un héros.
Non, il y a un héros, par exemple. Ou il y a un héros, voilà, par exemple, il y a un héros, et je ne suis pas encore arrivé chez moi à la maison. Notan kiso le nochi. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Qu'est-ce qu'il fait? Notan kiso le nochi, il peut donner son porte-monnaie à un non-juif. Alors, il y a une marloquette entre dans les commentateurs pour expliquer de quoi elle parle la Mishnah. Est-ce que la Mishnah parle quand il fait déjà noir dehors, ou est-ce qu'on parle du moment de Ben Hashmashot? Ça veut dire qu'après l'heure d'allumage des bougies, mais c'est pas encore la nuit. Rashi explique que le seul moment dans lequel c'est permis de donner à un goy, c'est seulement quand c'est mibéod yom, c'est-à-dire quand il fait encore jour. Vous savez, quand Shabbat y rentre, il fait encore jour.
Bien que le soleil soit couché,
il fait jour. D'accord? Rashi explique que c'est seulement quand il fait jour qu'on a le droit de donner un goy. S'il fait pas jour, on peut pas. C'est-à-dire s'il fait déjà nuit maintenant, c'est fini, c'est interdit. Ça, c'est Rashi. Le Roche, d'accord? Il me semble que l'Alakha a été fixée comme lui. Le Roche dit que même s'il fait nuit, on peut. Même s'il fait nuit, je peux donner un goy. Pourquoi? Bien que normalement j'ai pas le droit de demander à un goy de faire un travail, explique le Roche, il dit on a un principe que En Adam m'a mis d'être moi al mamono. C'est-à-dire qu'une personne, dès qu'il s'agit de son argent, il perd la tête. Et les Chachamim expliquent, qu'est-ce qu'explique le Roche? Il dit, les Chachamim savent que si tu permets pas à la personne de donner un goy, il va le prendre lui-même. Parce qu'une personne, dès qu'il s'agit de son argent, il perd sa tête. En Adam m'a mis d'être moi al mamono. Donc explique le Roche, c'est pour ça que les Chachamim ont dit, on préfère qu'il donne à un goy, qu'il transgresse une de nos interdictions, qu'il le prenne carrément lui, d'accord? Et là, il va savoir ce qu'il peut faire, peut-être qu'il va aller dans le domaine public, qu'il va porter, on ne sait pas ce qu'il va faire. Donc il donne à un goy, et au moins on est sûr qu'on a limité les dégâts. Car ça, c'est le Roche qui explique comme ça. Vous avez deux manières de voir la chose. Donc, Mishir Shirbaterech, Notan Kiso le Nochi. Une personne, donc déjà, ça c'est première hypothèse. Première hypothèse, il y a un goy. Donc s'il y a un goy, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais, monsieur David, s'il y a un goy? Je donne mon porte-monnaie à un goy. Pour qu'il me le rende après Shabbat, bien sûr. Ouais, j'attendais.
Non, mais d'en parler, pour prendre des exemples de maintenant. Tu es dans ta voiture, tu es à la nuit, t'as surpris, tu es à.
Kader, viens, je te donne mon portefeuille.
Voilà, qu'est-ce que vous faites?
Alors, au nom des exemples de maintenant.
C'est vrai, pas trop.
Je laisse mes affaires dans la voiture, d'accord? Et je prends les clés de la voiture. Si j'ai une manière, je prends les clés de la voiture et je laisse un commerçant à côté. Mais si j'ai une ceinture de Shabbat, je peux essayer de m'arranger, mais moi, c'est un peu compliqué.
Sur l'autoroute, donc tu laisses tous tes papiers, tout ça, mais maintenant, dans la nuit, tu vas marcher.
Bien, je peux le donner à un goy. Je peux donner à un goy.
Oui,
ouais, mais ils sont très soupçonneux maintenant.
Bien sûr que vous marchez.
Et
ben, vous marchez.
Donc, tu n'as pas d'argent, tu n'as pas de papier, et tu vas marcher dans la nuit, si tu es dans la...
Et je te conseille d'avoir tout le temps dans ta voiture ou dans une ceinture shabbatique, ça sert beaucoup. Je peux te le dire.
Il n'y a que essayer. De l'argent,
mais c'est la voiture.
Imagine qu'elle a une consigne de gare, tu vois, gare de l'Ouest. Ah, il y a la gare là,
bien entendu, s'il y a un danger. Alors, s'il y a un danger, je sais pas, vous êtes en plein milieu d'une forêt et il y a des lions qui risquent de vous attaquer, je sais pas, ouais.
Non, sans les lions,
je sais pas ce qui peut arriver en Afrique.
Souvent, les lions, ils ont deux jambes, hein, ils ont pas quatre pattes.
Ouais.
Mais pas nous, mais pas nous.
Les lions ne sont pas ce qu'on pense.
Toi, t'es spécial, je sais pas si t'es marqué dans la mission.
Non, mais...
S'il y a danger, monsieur...
Voilà, les...
Mais on rentre pas dans une situation dangereuse avant Shabbat.
Ça, c'est clair.
Oui, bon.
Mais là, dans ce cas-là, pourquoi ils nous en parlent? Que ça peut arriver.
Bien sûr, ça peut arriver.
Sinon, on n'en parle pas.
Bon.
T'as un hélicoptère, ils prennent des sens, t'es obligé d'acquérir dans une prairie au milieu de la jungle.
Et c'est Shabbat! Et là, pourquoi pas? Ben voilà, tu as donné un exemple. Toi, tu as pris tout ton temps. L'avion, en général, il arrive vers midi. Il a des problèmes, boum, boum, tu es bloqué, tu arrives.
Moi, je donne un goy. Première hypothèse.
Tu restes dans l'hélicoptère, voilà, je te dis.
Première hypothèse, je donne l'argent à un goy. Là, je parle, je suis dehors, d'accord? Je donne l'argent à un goy.
Et 18 minutes.
Ve'im en imonochi.
Elle marche.
Bien sûr qu'elle marche. Là, je parle après 18 minutes. Ve'im en imonochi. Maintenant, s'il n'y a pas de goy avec moi, ou bien, explique la Gemara, ou bien je fais pas confiance au goy. Hein, c'est intéressant.
C'est sûr.
Quand la Mishnah dit s'il n'y a pas de goy, la Gemara dit pas seulement s'il n'y a pas de goy. Même s'il y a un goy, mais je lui fais pas confiance.
Mm-hmm.
Quand j'ai un porte-monnaie avec beaucoup d'argent, et je sais que si je veux lui donner.
Au fixe, donne mes 10 000 $.
Je vais récupérer que les papiers. D'accord? Donc, je vais imanimo nochi. S'il n'y a pas de goy avec moi. Qu'est-ce qu'il fait dans ce cas-là? Manicho à la chamor. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas avec les voitures. À l'époque, il y avait une solution qu'on n'a pas aujourd'hui. C'est quoi, hein? Il pose l'argent sur son âne. L'âne, il avance tout seul. On n'a pas ça avec les voitures.
Hein. Sauf si elle aurait commandé la bagnole ou elle a un programme.
Manicho à la chamor. Donc il pose sur l'âne. D'accord ? Il pose sur l'âne.
Non, il y a des gens qui ont des
attendez,
chiens.
Attendez, c'est pas
fini. Il y a des gens qui ont des chiens.
Alors maintenant, écoutez bien ce qu'il faut faire attention. Le problème qu'on a, c'est quoi ? C'est que c'est que l'âne, d'accord ? Chaque fois qu'il s'arrête et qu'il redémarre, je fais une interdiction. On n'a pas le droit, les Chachamim ont interdit. Donc qu'est-ce qu'ils ont dit les Chachamim ? Tu marches à côté de ton âne, et chaque fois que l'âne veut s'arrêter,
tu retires
ta bourse.
Donc, tu
la lèves. Oui, mais voilà, ils ont permis. Tu lèves la bourse.
Et tu l'offres.
Parce qu'encore une fois, les Rachamim savent que quand il s'agit d'argent, on perd la tête. Donc ils ont un peu fermé les yeux sur ça aussi. C'est comme l'histoire de l'incendie, hein. Les Rachamim savent qu'on perd la tête. Donc il y a des choses qui permettent. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Je lève la bourse. L'âne, il recommence à avancer.
Je remets.
Voilà, hein, ça, aujourd'hui, on n'a pas des ânes, donc, ouais. Bon. Manicho al Manicho. Manicho al
Hamor. Il y a des gens qui ont des chiens.
Ouais. Manicho al Hamor, on le pose sur l'âne. Maintenant, Igia al Hatsar Achitsona. Maintenant. Donc, en Afrique, d'accord, on est avec un âne.
Bon, mais même en France,
je l'ai posé sur l'âne. Très bien, je me suis arrangé ou bien je m'arrange pour que l'âne s'arrête jamais. Quand je le pousse comme ça, je dis allez, avance, il s'arrête pas. Très bien. Ouais. Maintenant, l'âne, il arrive, Baruch HaShem, il arrive devant la porte de chez moi.
Ouais.
Avec le porte-monnaie dessus.
Ouais, comment on fait ?
Qu'est-ce que je fais ? Ah, c'est pas ça.
Tu rentres l'âne à la maison.
Il y a le Chatser Achitsona. Donc, dès que j'arrive à la cour extérieure, d'accord, j'arrive à la cour extérieure. Et mon âne, donc il y a mes affaires sur mon âne, les papiers, l'argent, etc. D'accord ? Et là, explique la Gemara qu'en vérité, quand on parle de la cour extérieure, c'est pas forcément la cour extérieure de chez moi. Ça veut dire que dès que j'arrive, dès que je passe par une cour, que je sais où l'argent peut être préservé. Par exemple, je rentre dans la ville, première maison de la ville, c'est la maison d'un ami que je connais. C'est pas chez moi, je vais arriver chez moi. C'est la maison d'un ami que je connais. À ce moment-là, j'ai plus le droit d'avancer.
Très bien.
À ce moment-là, j'ai plus le droit d'avancer. Dès que, pourquoi ? Parce voilà. Que les Chachamim t'ont permis parce qu'ils savent que l'argent, une personne perd la tête pour son argent. Mais dès que tu as une manière de garder ton argent, à ce moment-là, notel et takilim anitalim be Shabbat. D'accord ? Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là ? Il prend dans sa main. À ce moment-là, dès qu'il est rentré dans cette cour, c'est-à-dire je rentre dans la ville, il y a mon ami, je rentre chez lui à la maison, au moment où l'âne a franchi la porte de sa cour, c'est-à-dire que maintenant ça peut se garder, à ce moment-là, toutes les lois de Moukté s'appliquent. Ça veut dire, je veux prendre les ustensiles qui sont pas mouktés pendant Shabbat, je peux les prendre de l'âne, ça je peux. Mais Veshena Mitalim Beshabbat, tout ce qu'on n'a pas le droit de prendre pendant Shabbat, donc tout ce qui est moukté, c'est-à-dire l'argent, tout ce que vous voulez, tout ce qui est moukté, Matir et Tachavalim Vasakin Muflim Aleem. La seule chose qu'on t'a permis, c'est de défaire la corde. Vous savez, s'attacher avec une corde. Défaire la corde, et les sacs qui tombent, s'ils tombent. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Maintenant, si vous avez des objets en cristal, etc., hein, et que ouais. C'est moukté, bien entendu, vous ne touchez pas.
Ça, c'est l'âne.
Ça, c'est l'âne.
D'accord. Et la voiture ?
Eh ben la même chose, la voiture, ça on peut rien faire, la voiture, t'es obligé de laisser.
Ça reste, quand même.
Non, mais toi, ta personne, tu as dit tout à l'heure quelque chose, tu as dit ta personne, il fait plein de nuit, tu laisses tout dans la voiture, puisqu'on a, grâce à Dieu, cette possibilité. On ressort, on n'a plus rien.
Oui.
Ok ? On n'a pas profané Shabbat.
Très bien.
Et
mais...
toi, tu fais quoi de ta propre personne ?
Alors, marcher.
Tu marches où ? Tu es en pleine campagne, tu marches où ?
Eh ben, tu marches.
Dans les zones industrielles.
3h30, j'ai marché une fois, j'ai fait 26 km pour
rentrer. Et tu as laissé la voiture.
Il y a un danger, je sais pas, je pose une question, il y a un danger ?
C'est la nuit, c'est une zone industrielle.
Et alors ?
Et tu sais même pas où est ton chemin pour entrer chez
toi. Vous dormez dans la nuit.
Oui.
Bah, attendez, vous dormez dans la voiture la nuit. Vous laissez la porte ouverte.
Donc tu fais pas Shabbat, tu fais.
Vous débranchez la batterie, comme ça vous êtes sûr qu'il n'y a pas de. Mm-hmm. De brancher la batterie, et vous dormez dans la voiture Shabbat.
Il y a un danger.
Pourquoi il y a un danger ?
Dormir dans une voiture, dans une zone industrielle, la nuit tout seul.
Pourquoi il y a un danger ?
Pourquoi il y a un danger ?
Toi,
tu as fait quoi ?
C'est dangereux.
S'il y a un danger, qu'est-ce que je vous dise il faut utiliser votre bon sens.
Attends, je revenais de mots, j'ai fait du stop d'ailleurs. J'ai fait du stop, et à un moment j'ai dit, on arrête. Il me dit, mais on est sur l'autoroute. Je dis, oui, vous arrêtez, tout de suite. Je suis descendu, j'ai pris le maximum, tu vois, j'étais avec maman pour voir les 18 minutes. Après je lui dis, bon, j'arrive quand j'arrive. Et c'était sur
et vos affaires,
et vous affaires.
J'avais laissé dans la voiture.
Ah, oui.
À mots, c'était. J'étais à mots quand je me suis dit jamais j'arriverai.
Mot de tête.
Tu vois ?
C'était pas mieux de prendre un hôtel et de rester à mots ?
Bah oui.
Je connais pas moi mots, et Shabbat, et machin, et ma femme. Il n'y avait pas le téléphone dans la voiture à ce moment-là. Hein. Je suis rentré, elle pleurait, ma femme. 11h30 du soir.
Moi je savais que
c'était à mots. Jusqu'au lendemain, je sais pas ce qui serait arrivé, jusqu'au lendemain après Shabbat. Je pouvais pas.
Donc il a fait à pied.
J'étais à pied, je suis revenu de Meaux, donc je dis, vous vous arrêtez maintenant. Je suis descendu et j'ai marché sur l'autoroute depuis, on va dire, 7-8 km avant d'arriver à la porte de Montreuil. Tu vois ?
Exact, c'est bien. C'est pas le bout du monde.
Donc j'ai fait mes 7-8 km, ensuite porte de Montreuil.